Ce que j'aime le plus, c'est l'aventure. Partir en rando, en bivouac, dormir sous les étoiles, prendre le large, apprendre à faire de l'apnée, surfer au lever du matin. Mais parfois, c'est pas facile de trouver les copines disponibles et motivées pour partager ce genre d'aventure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te présenter Audensia. Audensia, c'est une petite agence créée par Maeva qui propose des séjours aventure et bien-être 100% féminin. Au programme, un week-end randonnée à ski avec deux nuits en refuge au cœur des Alpes. De la voile d'hiver et d'été dans les fjords en Norvège. Une rando à cheval et bivouac sur plusieurs jours à travers les Pyrénées. Le tout avec du yoga, de la méditation. Bref, c'est le programme de mes vacances de rêve. Rien besoin d'organiser, juste profiter avec des meufs trop cool. Si tu écoutes ce petit message et que tu embarques toi-même sur un séjour Audensia, n'oublie pas de dire à Maeva lors de ton inscription que tu viens de ma part pour bénéficier d'un petit cadeau de moi-même. Pour découvrir tous les séjours Audensia, rendez-vous sur audensia.com. Épisode 139 avec Christian Junot. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Christian Junot, qui est expert dans le domaine de la relation à l'argent. Il anime des conférences, des stages et des programmes en ligne pour nous aider à apaiser notre relation à l'argent et il apprécie particulièrement aider les entrepreneurs, comme moi, pour nous aider non seulement à vivre de nos projets de cœur, mais surtout à nous épanouir grâce à l'argent. Il est l'auteur de nombreux livres, dont « Ce que l'argent dit de vous », qui vous aidera à mieux comprendre votre rapport à l'argent, à trouver plus de sérénité et à mettre l'argent à la bonne place pour qu'il vous aide à vous réaliser. Si vous écoutez le podcast et que vous avez envie de lancer votre projet entrepreneurial et à en vivre bien, mais que vous avez plein de doutes et de peurs liés à l'argent, alors cet épisode est pour vous. Dans l'épisode, Christian nous parle notamment de comment l'effet miroir peut nous aider à mieux intégrer des parts de nous, nous aider à nous accepter et donc à apaiser notre relation à l'argent. Ses meilleurs conseils pour nous, les entrepreneurs, comment fixer son prix ainsi que les croyances limitantes que nous pouvons rencontrer dans ce processus, comment faire face à l'anxiété entrepreneuriale due à l'incertitude, comment cultiver un état d'esprit d'abondance et tellement plus. Pour retrouver les livres, les conférences et les stages de Christian, rendez-vous sur son site internet, c'est junotconseil.com. Je vous laisse avec cette interview richissime et je vous retrouve à la fin. Très bonne écoute. Bienvenue Christian sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview.
Merci, bonjour Anouk, merci de ton invitation.
Donc, toi, tu es spécialisée dans la relation à l'argent et tu aides les hommes et les femmes à guérir leur relation à l'argent. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux décrire une partie de ton parcours? Comment est-ce que tu t'es orientée vers ces accompagnements-là?
Tout à fait. Alors juste avant que je donne mon parcours, j'ai comme juste envie de rebondir sur le mot. Je n'utiliserai pas le mot guérir parce que quand on parle de guérison, on parle de maladie en général, hein, c'est pour qu'il y ait guérison. Mais je dirais en tout cas, oui, qu'il y ait de l'inconfort, des malaises, des peurs, etc. Effectivement, de pacifier ou de transformer son rapport à l'argent. Effectivement, c'est bien de ça qu'il s'agit. Dans mon parcours, rapidement, donc je suis suisse, économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans la plus grande banque suisse, 17 ans conseiller en placement financier. Donc moi, j'ai eu affaire à ceux qui avaient clairement plus d'argent que la moyenne. J'ai changé de métier les 2 dernières années. J'ai fait un peu d'accompagnement. J'ai commencé à faire un petit peu de coaching, un petit peu, hein, commencé un petit peu à me former au coaching. Et j'étais licencié en 2009 suite à la fameuse crise des subprimes. C'est un licenciement collectif. Et j'ai décidé que je n'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains, parce que ma vraie passion, c'était l'accompagnement des êtres humains, bien plus que la finance. J'étais un banquier un peu atypique, parce qu'à ce moment-là, ça faisait déjà 10 ans que je faisais toutes sortes de cours, ce qu'on appellerait du développement personnel. Je mets des guillemets à ce mot-là que je n'aime pas trop, mais enfin, voilà, des croissances intérieures, de compréhension de l'être humain, etc., dont beaucoup de CNV, de communication violente, mais aussi des approches systémiques et d'autres choses. Et puis, voilà, ben, je me suis justement formé au coaching, je me suis formé aux approches systémiques, à différentes approches. Et j'en suis venu à la relation à l'argent parce que, alors que j'étais encore banquier, j'ai découvert un gars qui s'appelle Peter Koenig. Donc, c'est un Allemand, un Anglais qui vit à Zurich. Et lui a fait des années de recherche des années 80-90 sur la relation à l'argent. Et je l'ai découvert, alors j'étais encore à la banque, et je l'ai découvert à l'époque où j'ai enfin pris conscience que j'étais bourré de peur avec l'argent. J'avais peur de manquer malgré d'excellents revenus, malgré, je n'avais pas de problème d'argent, mais j'avais des problèmes de relation à l'argent. Tu vois, c'était vraiment différent. Et donc j'ai rencontré, puis voilà, ben j'ai dit plutôt que d'aller faire un atelier en Belgique, en France, je lui ai demandé de venir en Suisse francophone, ce qu'il a accepté. Et je suis devenu son organisateur. Et c'était un pas qui était, enfin, avec le recul, qui était décisif, puisque j'ai organisé 7 fois un atelier de 2 jours pour lui. J'ai suivi les 7 ateliers. Plus un 8e encore en Alsace, et sans le savoir, sans le vouloir, je me suis imprégné de sa manière de faire, qui fait qu'au début que j'étais indépendant, alors que je n'avais absolument pas prévu de faire une fois le rapport à l'argent, c'est lui qui m'a dit, c'est bon Christian, tu peux y aller, tu peux le faire aussi. Et il m'a comme donné une permission, d'une petite poussette dans l'épaule, parce que moi j'avais le complexe de l'imposteur, tu vois, le gars a fait 7 ans de recherche, il fait ça dans 10 pays, dans 3 langues différentes, enfin qui suis-je, tu vois? Pour oser faire ça, voilà, alors que personne ne le faisait à part lui, tu vois. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et tout à coup, ça a réconcilié mon passé de banquier. C'est comme ça a donné du sens à ce que j'ai fait à la banque, parce que j'avais plein d'expériences d'histoire d'argent que je pensais qui ne serviraient à rien du tout dans ma vie, tu vois. Et tout à coup, c'est comme ça faisait un pont entre mon passé de banquier et mon nouveau métier. Et voilà, donc et depuis maintenant 14 ans, j'anime des ateliers. Je fais plus d'accompagnement individuel depuis 6 ans maintenant parce que je trouve que le travail en équipe et en groupe est plus porteur. Il y a une énergie qui fait que ça accélère les choses. Et puis, je kiffe plus le groupe aussi. Hein, je dois le dire aussi, j'aurais de toute façon pas le temps de faire cet individuel. Et je fais ça dans quoi, 5-6 pays. Voilà, j'ai écrit 5 livres également. Et je fais autant du présentiel que du virtuel. Et puis, je travaille beaucoup, de plus en plus avec les entrepreneurs et les indépendants. Parce que je vois que dès qu'on se met à son compte, qu'on doit générer de l'argent par soi-même, il y a de nouveaux défis qu'on n'a pas quand on est salarié, que ça tombe chaque fin de mois de manière régulière. Et je vois que là, ça vient réveiller de nouvelles peurs, de nouvelles problématiques et que ces personnes-là ont vraiment besoin d'accompagnement.
Merci beaucoup. Et c'est ces personnes-là dont j'aimerais qu'on parle. J'en fais partie, donc j'espère aussi recevoir quelques conseils lors de cette interview. Quand on arrive sur ton site internet, il y a une première phrase d'introduction qui dit « De l'argent à l'amour, pour offrir le meilleur de soi en étant connecté à sa source. » Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors déjà, argent et amour dans une même phrase, je pense que ça peut faire un petit peu bondir certains. Et puis, connecté à sa source, qu'est-ce que c'est sa source, le meilleur de soi?
Oui, c'est vrai que j'aime bien cette phrase parce que je crois qu'elle donne tout de suite la couleur de ce que je fais. Et je le dis parce que, et il n'y a pas de jugement hein, quand je dis ça, simplement c'est une autre philosophie de la vie, une autre approche de la vie. C'est qu'on va beaucoup trouver sur Internet comment faire vos 6 chiffres d'affaires, enfin, chiffre d'affaires à 6 chiffres, comment faire votre premier million et tout. Ce n'est pas mon optique, entendons-nous, hein, j'ai surtout rien contre le fait de gagner de l'argent, même beaucoup d'argent. Dès le moment où c'est fait avec éthique, c'est fait dans une envie de contribution, je trouve ça génial et je suis le premier réjoui. Mais simplement, en faisant ça, si tu veux, on veut accumuler de l'argent et en même temps, on ne va pas voir les vrais problèmes qui sont derrière. Parce que souvent, on veut accumuler de l'argent pour aller calmer une peur en pensant que la solution est à l'extérieur pour quelque chose qui est à l'intérieur. Donc moi, ce que j'ai remarqué avec le temps, j'aurais jamais osé parler formuler les choses comme ça pendant longtemps, mais ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est qu'avec l'approche qu'a développée Peter Koenig et puis que je continue de développer moi-même aussi, c'est que quelque part, c'est un travail de réunification à l'intérieur, un travail identitaire déjà, mais de réunification, parce que c'est beaucoup un travail des différentes parts de soi, soit qu'on rejette, hein, je rejette l'injuste, le voleur, le radin, le truc comme ça, parce qu'on nous a dit que ce n'était pas beau. Et puis, il y a des parties que je rejette, que je trouve belles, mais que je ne m'autorise pas à accueillir, à penser qu'elles m'appartiennent, d'être brillant, hein, d'être, le mot qui vient, successful, plein de succès, peut-être d'être une référence dans mon domaine. Enfin, il y a plein de choses qui sont positives, mais il y a plein de gens qui gardent ça à distance, disant non, c'est pas moi, c'est pas moi, moi, j'ai pas droit, j'ai pas droit à tout ça, même à l'abondance, tu vois. Et au fond, tout mon travail qui est d'accueillir toutes ces parts et de sortir du bien et du mal, ça crée de l'unité. Et ça crée de l'unité, puisque chaque part que j'accueille, c'est une part que je suis moins en conflit. Parce que tant que je la rejette, je suis en conflit intérieur. Au moins, je l'accueille, je cesse déjà d'être en conflit avec cette partie-là. Donc, plus je crée de l'unité à l'intérieur, plus j'aime l'être humain que je suis, parce qu'il est toujours plus réunifié, il est toujours moins en guerre intérieure. C'est subtil, hein, cette guerre intérieure, elle est à travers nos pensées, à travers les histoires qu'on se raconte. Et quelque part, je vois bien que le meilleur moyen d'avoir une meilleure relation à l'argent, c'est d'apprendre à mieux et plus s'aimer. Parce que si je m'aimais, si j'arrivais à m'aimer inconditionnellement, ce que je n'ai clairement pas réussi à faire encore, mais j'essaie de tendre vers, et je crois que pas plus près, personne n'y arrivait pour l'instant, il y a zéro raison de me mettre des limites. Il y a zéro raison de me mettre des croyances limitantes. Il y a zéro raison de me mettre des plafonds de verre. On va juste être dans l'ouverture, dans l'expansion possible. Et puis, on y va, tu vois, on va arrêter de se raconter des histoires de « je suis trop petit, je ne suis pas pour moi, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça ». Ce n'est pas de l'amour de soi que se raconter des histoires comme ça. Donc ça, c'est peut-être la première partie de la phrase. La deuxième partie, quand on parle de la source et du rayonnement, bon, la source, c'est un petit peu un jeu de mots, dans le sens que l'autre thème que j'anime, c'est les principes source, qui est de voir que nous sommes à la source de beaucoup de projets. Et en tant que personne à la source d'un projet, on a un lien particulier et singulier avec ce projet-là. Mon projet professionnel est un projet que j'ai porté, que je porte encore. On parle parfois dans le monde entrepreneurial, on parle d'un projet, on dit personne, c'est son bébé. Hein, c'est son entreprise, c'est son bébé. Ça parle bien d'un lien très fort entre moi et mon projet. Je ne suis pas mon projet, hein, c'est important quand même, mais simplement mon projet d'imprégner de moi. Et donc, je suis à la source de projet. Après, d'où vient ce projet-là? Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que je suis au service de plus grand? Ça, c'est une autre question. Chacun aura ses propres réponses. Moi, j'ai tendance à croire que nous sommes là pour être au service de la vie et pas la vie à notre service, mais nous au service de la vie, que nous avons quelque chose de singulier, chacun à y contribuer. Et effectivement, que nous sommes là pour rayonner le diamant intérieur qui est en chacun et chacune d'entre nous, sans exception. Et que ce diamant-là, il est là pour être rayonné, mais tant qu'on met des couches de sable dessus, tu vois, c'est comme s'il y a une pépite qui est là, qui ne sert à rien, qui ne sert à personne. Et je trouve tellement que c'est du gâchis que moi, ça me motive à accompagner justement tous ces êtres humains à libérer leur rapport à l'argent pour qu'ils puissent rayonner un peu plus le cadeau qu'ils sont. Parce que je crois au plus profond de moi, je termine avec ça, c'est que plus nous serons nombreux à rayonner, à donner le meilleur de nous-mêmes, à offrir la pépite que nous avons au fond de nous, mieux nos sociétés se portera. C'est pas en restant petit qu'on va changer la société, c'est pas possible. J'ai beaucoup parlé.
Non, absolument pas. C'est très beau et je résonne tout à fait avec ça. Dans la première partie de la phrase, tu as mentionné donc les parts de soi qu'on a tendance peut-être à rejeter ou celles qu'on aimerait mais qu'on n'a pas tendance à se donner. Comment est-ce qu'on fait pour voir soi, quelles sont ces parts qu'on rejette? Quelles sont des pistes de réflexion qu'on pourrait déjà avoir pour mieux comprendre quelles sont les parts qu'on rejette ou qu'on n'arrive pas à se donner?
Alors, si je prends la première partie des parts qu'on rejette, j'ai une première question qui va permettre d'y répondre. C'est qu'est-ce que tu n'aimerais vraiment pas qu'on dise de toi? Tu vois, qu'est-ce qui serait douloureux à entendre de toi? Tous les jugements, hein, en parlant de jugements que c'est difficile d'entendre. Oh là là, de dire que je suis égoïste, mon Dieu, quelle horreur. De penser que je suis un radin, non, surtout pas. Tu vois, toutes ces parts qu'on aurait tellement pas qu'on dise de nous, ce sont déjà des parts qu'on rejette. Ça, je peux te dire à coup sûr. Parce qu'au moment où j'ai accueilli cette part-là, moi, je sais que j'ai accueilli le radin et le généreux sans condition. Et c'est ça qui est magique, quelque part. C'est quand ces deux polarités, c'est juste deux facettes différentes. Mais quand on accueille. Parce que radin généreux, de toute façon, je veux dire, ce sont que des perceptions. Hein. Qui peut décider ce qui est généreux, ce qui est radin, tu vois? C'est 10 000 perceptions différentes. Hein. 10 000 personnes, 10 000 perceptions différentes. Donc, au moment où on accueille le radin généreux, il n'y a plus que ce qui est. On peut oublier ces étiquettes qui font tellement de mal et qui créent de la séparation. Je vais être à l'écoute de ce qui est juste à chaque instant. Quand j'appelle radin, c'est plutôt fermé, parce que je pense que c'est juste fermé de ne pas donner à l'instant T. Puis généreux, très généreux, c'est ouvrir tout grand. Puis après, il y a plein de milieux, tu vois, entre tout ça. Donc, c'est juste être dans la justesse de chaque instant. Et à un moment donné, ben, je sais que je suis et le radin et le généreux. Et tu vois, je ne suis pas que un ou que l'autre, je suis tout. Et j'ai envie d'être tout dans le sens que j'ai envie d'avoir toutes les possibilités et de ne pas donner juste parce que j'ai peur qu'on dise de moi que je suis radin, puis je donne, puis j'ai zéro élan de donner. Ça arrive tellement souvent, ce truc-là. Ça m'est arrivé tellement souvent, puis ça m'arrive encore parfois. Tu vois, dès que j'ai peur du regard des autres, qu'on puisse penser quelque chose de moi, je suis déjà prisonnier de ça. Donc, c'est pour ça que c'est la première question, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on n'aimerait pas qu'on dise de nous. Et puis, qu'est-ce qui nous agace prodigieusement chez les autres? Ce qui nous agace prodigieusement chez les autres, en général, ce sont des comportements. Mais ça demande d'aller au-delà du comportement. Dans mon deuxième livre, Enfin, l'idée de soi-même, avec mon ami Evelyne Faniel, on parle beaucoup de l'effet miroir. Et c'est vraiment ça, l'effet miroir. C'est-à-dire, quelqu'un a un comportement qui nous agace, mais le comportement n'est pas le problème. C'est ce qu'il y a derrière le comportement. Et je donne un exemple, pour vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Avec Evelyne, justement, on est en pleine écriture de ce livre. Et on va voir un conférencier, puis au bout de 10 minutes, je me retourne vers elle, je dis « Oh purée, ce qui m'agace, ce mec-là, je dis, moi, je ne peux plus le voir en peinture. » Il n'avait pas fallu 10 minutes que nous, on était vraiment réactivés par cette personne-là. Et voilà, c'était, ben, je dirais, c'était pour rien, c'était notre histoire à nous, hein, des 50, certainement qu'il y a plein d'autres personnes qui ne pensaient pas comme nous. Mais c'était juste son comportement, on trouvait qu'il était sans arrêt à parler de lui, à regarder ses slides, il n'était pas connecté avec les gens, enfin, il parlait de tous ses titres, enfin, on n'avait pas de connexion avec lui, vraiment, on n'était pas en lien. Mais sur le moment, on a vu toute la résistance qu'on avait l'un et l'autre à aller voir qu'est-ce qui venait révéler et réveiller chez nous. Parce que nous, en conférence, elle comme moi, on n'est pas du tout comme ça. Donc, tu vois, on ne se retrouve pas dans le comportement. Et en fond, ça demande d'aller un pas suivant. Et il m'a fallu 3 jours pour ça. Je suis revenu là-dessus, dit, je ne lâche pas ce truc-là. J'ai dit, si tu pouvais te lâcher, quel jugement tu balancerais sur ce mec? Et ça m'est venu au quart de tour. Ce mec, pour moi, est un égocentrique. Ok, et là, on prend miroir, mon beau miroir. Est-ce que ça te parle, l'égocentrique en toi? Tu vois? Et je dis, au fond, je prends conscience, mais au moment où je me pose la question, je prends conscience que je suis déjà un grand égocentrique. Je prends un exemple très simple, c'est qui m'est venu. Je dis, ça fait des années que je passe une partie de mon temps à voyager. J'ai jamais demandé à mon épouse que ça lui faisait d'avoir un mari aussi souvent absent. Bel exemple d'égocentrisme qui est juste tourné sur lui et qui ne s'intéresse pas à ce que l'autre pense et vit. Tellement j'avais peur qu'elle me touche à mon beau jouet, qui est mon activité professionnelle que j'adore, tu vois. Donc, je vois que j'étais déjà égocentrique, simplement, je l'étais de manière inconsciente. Et l'idée, si tu veux, d'accueillir ces parts de soi, c'est de pouvoir utiliser ces parts de manière consciente plutôt que de les vivre ou de les subir de manière inconsciente et de les faire subir de manière inconsciente. Parce qu'en conscience, encore une fois, prenez l'exemple du radin, je peux fermer, et c'est juste de fermer à un moment donné, de ne pas donner quelqu'un que je sens que ce n'est pas juste de donner et ce n'est pas rendre service, tu vois. Mais je peux le faire seulement si je suis OK avec cette part pour me faire traiter de radin. Donc, si je suis OK de me faire traiter d'égocentrique, je peux être complètement tourné sur moi, sur ma coquille, me déconnecter des autres pendant une semaine parce que je vais écrire un livre et puis je m'en fous du reste, tu vois. Je suis tourné sur moi, mais ça a du sens pour moi de le faire. Et je suis OK avec ça. Puis à d'autres moments, je serais très altruiste. Mais tu vois, c'est savoir pouvoir jongler avec l'un et l'autre. Donc, les effets miroirs, ce qui nous énerve chez les autres et le jugement qu'on balance chez les autres et ce qu'on n'aimerait surtout pas qu'on dise de nous, en résumé.
Est-ce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui t'agace, tu prends le temps d'aller regarder ça à l'intérieur de toi ou est-ce que parfois il y a juste des gens qui nous agacent parce qu'on n'a pas, ce feeling, on n'a pas ce ressenti ou je ne sais pas si ma question se fait entendre, mais parfois je me dis il y a juste des gens qui sont pénibles et c'est tout.
Écoute, si, j'ai envie de te dire la chose suivante, si 100% des gens pensent que cette personne est pénible, c'est une loi de la vie. Il n'y a rien à voir. Mais ça me surprendrait, vois-tu. Ça me surprendrait. Donc, je pense quand même qu'il y a une part qui nous appartient parce qu'avec le temps, je vois très bien que certains sont très, très stimulés que certaines personnes. Puis moi, je le regarde, ça ne me fait rien. Mais surtout, tu vois, si je reprends juste l'exemple de l'égocentrique, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où j'ai accueilli cette partie de moi, je me retrouve peu de temps après à intervenir après une personne où j'étais déjà intervenu une fois et qui m'agaçait. Mais je n'ai pas pris le temps de voir ce qu'il y avait. Et cette personne-là intervient devant moi et je vois son comportement. Elle a le même comportement que d'habitude et elle ne m'agace plus. Parce que je prends conscience ce jour-là qu'elle était extrêmement égocentrique selon mes perceptions et qu'elle m'agaçait avant parce que je n'avais pas perçu qu'elle parlait de cette partie de moi. Et au moment où j'accueille cette partie de moi, J'ai eu au contraire une forme de tendresse pour cette personne. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle doit manquer d'estime de soi pour parler de la sorte, et si tu veux. Et je suis allé vers cette personne et on a vraiment créé une belle relation parce que je n'avais plus mis le mur entre elle et moi que je mettais, si tu veux. Au moment où j'ai enlevé le mur de mon agacement, j'ai pu aller vers elle et la même attitude ne m'agaçait plus du tout la même chose. C'est là que je vois que c'est super intéressant, tu vois.
J'entends ce que tu dis et en fait, ça nous permet d'apaiser, nous, cette partie de nous. Ça change pas la personne, mais ça nous permet de mieux nous accepter et du coup de mieux accepter l'autre personne.
Absolument. Parce que si tu veux, plus j'ai d'amour pour moi-même, plus c'est facile d'avoir de l'amour pour les autres, tu vois. Plus je suis mal dans mes baskets, plus c'est difficile d'être bien avec les autres parce que je suis réactif pour un oui et un non, tu vois. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et tu vois, mais c'est pour ça que c'est important de vraiment passer le truc. Je me souviens d'une conférence, une personne me dit « Ouais, mais quand même, des gens qui se posent des bombes, qui se font exploser, etc. » Je dis « Est-ce qu'on serait d'accord de dire que c'est des gens qui sont extrémistes ?» Elle dit « Ah ben oui !» Je dis « Ben vous savez, moi je suis un sacré extrémiste des fois. Je travaille à l'extrême, je vais au bout du bout. Et je me demande si vous, parfois aussi, vous n'allez pas un peu pousser le truc un peu trop loin pour être dans l'extrême, etc. » Une forme d'extrémisme. Elle me regarde et me dit « Ah oui, ça me parle complètement. » Tu vois, donc c'est vraiment… À un moment donné, c'est pas grave d'être extrémiste. C'est juste de savoir l'être, à quel endroit c'est juste, à quel endroit on va pas l'être. Bien sûr que je vais pas aller tuer des gens, parce que ça n'a pas de sens d'aller tuer des gens, mais je peux être extrémiste en poussant le bout à très loin quelque chose, à un moment donné, si ça a du sens ou pas.
Super, c'est vraiment ouais, un outil, je le vois comme un outil d'acceptation de soi qui est très puissant.
Complètement.
Alors, je comprends que tu ne sois pas resté dans le milieu de la banque parce qu'on part d'une conversation autour de l'argent et puis en fait, on plonge dans une thématique qui s'éloigne de l'argent et qui est en lien avec l'acceptation de soi, l'amour de soi. Alors, pour réorienter un petit peu vers, du coup, vraiment l'argent, moi, j'ai beaucoup de femmes qui me suivent ou qui viennent aussi sur certaines de mes formations et qui ont envie de se lancer dans un projet entrepreneurial bien souvent relié au bien-être. Et il y a énormément de peur qui arrive. Qu'est-ce que tu dirais à une femme ou à un homme en soi qui a envie de se lancer dans ce projet en prenant conscience à la fois des risques, des vrais risques, et à la fois de comment elle ou il peut le faire pour s'accompagner intérieurement dans cette transition-là?
Oui, bah écoute, je disais tout à l'heure, avant le début de la conversation, hein, tu parles vraiment de mon public. Hein, j'ai énormément de personnes de ce public-là. Alors, j'ai à peu près, pour donner une information, j'ai à peu près 80% de femmes, 20% d'hommes. Et c'est pas pour autant que les hommes sont à l'aise avec l'argent. Hein, ils ont juste un peu moins la capacité à aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes pour l'instant, en tous les cas, même s'il y a quelques spécificités par rapport aux femmes. Mais simplement, si tu veux, évidemment, on va dire que je prêche un peu pour ma paroisse, ce qui est vrai, mais je le pense vraiment. C'est-à-dire que je pense vraiment que quand on crée un projet entrepreneurial, à un moment donné, qu'on devient indépendant, je dis toujours, plus vite vous travaillerez votre relation à l'argent, moins vous aurez de blocages et de problèmes, parce que je vois des personnes qui viennent au bout de 3 ans, 5 ans, qui galèrent, qui n'en peuvent plus, parfois c'est trop tard. Et je leur dis, mais il y aurait eu moyen de poser des bases pour que ça soit plus facile. Parce qu'à un moment donné, tu vois, une des grandes difficultés que ces personnes ont, je peux te le garantir, c'est de fixer un prix. C'est de fixer un prix. Ils sont tellement mal à l'aise de fixer un prix, tellement peur, on revient à ce que vont dire les autres, tellement peur de ne pas avoir de clients, qui fait que finalement, on va fixer des prix bas. Parce qu'on va dire, si je mets mes prix bas, les gens vont venir à moi. Mais non, ça ne marche pas ce truc-là. Ça marchait, ça se saurait depuis longtemps. Alors, la plupart du temps, c'est que si j'ai un prix bas, pour que je m'en sorte, je dois faire tellement de séances que je vais m'épuiser et c'est ingérable à long terme. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a un prix bas, les gens ont une grande peur de remonter les prix en pensant qu'ils vont perdre leurs clients. Donc, ils se coincent eux-mêmes, tu vois, dans une sorte de prison dans laquelle ils sont mis déjà. Et évidemment que n'importe qui peut remonter ses prix, a le droit. Mais à un moment donné, tu vois, c'est juste parce que ces choix sont faits à partir de la peur. Et chaque fois qu'on fait des choix à partir de la peur, la qualité des choix et la qualité, la vibration énergétique qui est derrière, elles en souffrent, l'une comme l'autre. Et je peux en parler parce que c'est tellement moi pendant des années, ça. Et si tu veux, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important, en pacifiant sa relation à l'argent, et Peter Koenig, mon mentor, disait, lui, son objectif, il disait, c'est que les gens soient sereins, le plus serein possible, quelle que soit leur situation financière. Parce que moi, j'ai vu des entrepreneurs à succès qui font des millions qui sont surstressés en permanence pour des questions d'argent. Alors qu'ils font des millions, ils ont zéro problème d'argent. Tu vois, ils ne sont pas du tout avec l'argent. Donc, si gagner plus d'argent est toujours insécure, toujours surstressé, c'est encore pas une qualité de vie. Donc l'idée, c'est comment je peux être le plus serein possible et de faire des choix à partir d'un endroit apaisé plutôt qu'un endroit d'agitation mentale. Donc c'est vraiment un des objectifs que j'ai vraiment à travers mes activités, si tu veux. Et on va commencer à poser les choses différemment. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de, que ce soit à travers, je m'en fous, hein, que ce soit à travers moi ou pas, ça n'a aucune importance, c'est pas ça la question. La question, c'est vraiment de se poser les bonnes questions, de pacifier ce qui peut l'être, d'apprendre à s'observer comment je réagis, le stress que j'ai à différents moments pour comprendre un peu peut-être où sont les problématiques et puis de m'en occuper. Parce que très souvent, dans les personnes, dans les métiers de l'accompagnement, c'est une activité, souvent une deuxième ou troisième activité qui est une activité de cœur. Et puis on choisit, tu vois, j'aime accompagner les personnes et je me coltine une série de choses à côté de mon métier de cœur qui est l'administratif. Hein, qu'il y ait des règlements, la comptabilité à faire, de fixer des prix, de chercher des clients. Et tout ça, les personnes, en général, n'en ont pas envie. Ce n'est pas pour ça que j'en choisis ce métier. Ils subissent ces parties-là. Et en même temps, si on ne s'occupe pas des histoires d'argent, les histoires d'argent nous rattrapent. Donc, c'est important d'être à l'aise pour le faire quand c'est juste de le faire. Et on ne fait rien à une histoire d'argent quand il n'y a rien à faire pour l'argent. Parce qu'il y a ceux qui mettent ça de côté, qui négligent. Puis il y a ceux qui sont sans arrêt le nez dans les comptes parce qu'ils sont dans le contrôle, ils sont surstressés. Et l'un et l'autre n'est pas juste. Enfin, pas juste, n'est pas porteur, on va dire comme ça.
Alors, justement, tu en as parlé, mais comment est-ce qu'on fait pour fixer un prix? Quelles sont, toi, tes recommandations par rapport à ça? Je sais que quelque chose qui se fait, par exemple, donc moi, j'enseigne le yoga. Donc, les gens qui viennent à mes formations, elles vont proposer des cours privés, par exemple. Et à chaque fois, elles me disent « Oui, mais moi, j'habite ici. » Et du coup, le prix, c'est plutôt ça. Et du coup, elles vont baser leur prix par rapport au marché. Est-ce que toi, tu as une autre façon de faire? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça?
Alors, peut-être juste intéressant d'aller voir qu'en général, quand les gens racontent « Je viens de telle et telle région, je viens de telle et telle région de Paris, de machin truc », ils disent toujours un truc qui sous-entend quelque chose de plus bas. Ils disent jamais l'inverse. Hein,
ils disent jamais l'inverse. C'est très vrai, ouais. J'ai jamais vu encore, t'as raison.
Donc, ça montre bien déjà qu'on a déjà son regard qui est comme focus sur les raisons qui font que les clients ne préfèrent venir chez moi plutôt que les raisons que les clients préfèrent venir chez moi. Non, mais c'est important parce que, alors, je vais répondre à ta question, hein, mais simplement de voir que spontanément, on est plutôt soit d'un esprit de manque ou d'un esprit d'abondance. Et moi, j'étais dans un esprit de manque pendant des dizaines d'années. Autrement dit, tu ne vois jamais, tu vois tout ce qui ne va pas. De toi à toi, tu n'es jamais assez quelque chose. Pas d'ailleurs, il y a une histoire de fixer les prix. Il y a cette histoire d'être assez quelque chose. Je ne suis pas assez expérimenté, je ne suis pas assez formé, je ne suis pas assez si. Champion du monde pour trouver des pas assez, les gens, plutôt que de voir ce qu'ils sont déjà. Alors, c'est clair, comment veux-tu valoriser quelque chose à partir d'un quelqu'un qui n'est pas assez si, que pas assez ça? Ça va forcément se manifester de la manière dont on fixe les prix. Quand je me suis formé au coaching, je me souviens qu'on pouvait déjà faire des séances de coaching avant d'être certifié. Puis il y a ceux qui disaient, ben oui, je fais des séances de coaching, je fais payer parce que ce que j'amène a déjà de la valeur. Puis ceux qui disaient, ah ben non, je ne fais pas payer, je ne suis pas certifié. OK, c'était un choix de chacun. Et après, une fois que les gens sont certifiés, il y a ceux qui sont déjà payés, qui vont augmenter, etc. Puis les autres qui vont dire, ah non, mais je vais mettre un prix bas, je n'ai pas d'expérience, tu vois. Il y a, pour certains, il y a toujours une nouvelle raison pour maintenir un prix bas, alors que pour d'autres, ils sont à l'aise pour mettre un prix qui leur paraît plus correct. Donc, c'est déjà important d'aller voir que il est déjà important d'aller voir les histoires qu'on se raconte, parce que ces histoires-là nous influencent, encore une fois. Donc, oui, je pense que s'il y a des pratiques qui se font déjà dans des métiers qui sont bien connus, bon, c'est intéressant d'aller un petit peu voir ce qui se pratique sur le marché. Ça, c'est la première chose. Après, c'est important de voir également que dans chaque pratique, il y a des fourchettes de prix, puis il y a des personnes qui sont plus bas et des personnes qui sont plus hautes. Il n'y a pas juste un chiffre qui est juste, à moins que ce soit quelque chose de réglementé, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de question qui se pose. Et donc, qu'est-ce qui fait que certains sont plus hauts, qu'est-ce qui fait que certains sont plus bas? Bon, je connais des personnes qui avaient des prix qui étaient parfois du coaching, du double d'autres personnes, mais pour elles, c'était tellement clair que ce qu'elles amenaient avait tellement de valeur qu'il y avait une sorte de tranquillité de leur manière qu'elles amenaient ça, que tu avais vraiment envie de le croire, quoi, tu vois, et qu'elles avaient du monde en plus. Alors qu'à l'inverse, si tu penses effectivement que ce que tu amènes n'a pas beaucoup de valeur, ben tu vas mettre des prix bas. Peter Koenig disait une fois dans une séance qu'on avait un petit groupe, il disait « Tout prix est exclusif. Même le gratuit est exclusif. » Ce qui paraît bizarre. Parce qu'il dit « Même sur celui gratuit, il y a des gens qui ne viendront pas passer du gratuit. Si vous faites des petits prix, il y a des gens qui ne viendront pas passer des petits prix, ça ne leur inspire pas confiance. » Évidemment, c'est des prix élevés, des gens qui ne viendront pas parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens ou qu'ils ont les moyens et qu'ils ne sont pas prêts à mettre ce prix-là. Donc, tu vois, c'est juste important de savoir ça. Donc, il y a un public pour chacun. Je pense qu'il y a vraiment un public qui existe pour chacun. Et à nous d'aller un peu trouver c'est quoi ce public. Parce que je dis souvent aux personnes, si vous visez des prix bas, ça veut dire que vous êtes prêt à attirer du monde. Or, il y a ceux qui ont peu de moyens et vraiment, c'est respecter ces gens-là. Mais il y a aussi ceux qui cherchent le prix bas juste parce qu'ils ont envie d'un prix bas. Je dis, moi, je n'ai pas envie de travailler avec des clients qui cherchent un prix bas. J'ai envie de travailler avec des clients qui cherchent de la qualité et qui vont s'engager pour ça. S'ils viennent juste vers moi parce que je suis plus bas que les autres, je ne suis pas sûr de leur motivation. Je n'ai pas envie de ces gens-là, moi. En plus, c'est les gens qui râleront le plus, je peux te dire. Donc, tu vois, c'est aussi important d'être conscient de ça. Donc, fixer un prix est tout un art, disait Peter Koenig. J'aime beaucoup cette manière de voir les choses. Quand on me demande c'est quoi le prix d'une conférence, et je réponds, hein, je dis je ne sais pas. Je n'ai pas de prix pour une conférence, mais on va discuter ensemble pour trouver le meilleur arrangement possible et pour vous et pour moi. Et si on y arrive, ça serait très joyeux. Alors, j'ai la chance d'avoir un super thème pour pouvoir proposer ce genre d'expérience. Tu vois? Et en même temps, c'est mon intention aussi de dire j'ai envie qu'on trouve un prix où chacun est satisfait. Et je le fais pour les conférences, mais je ne le fais pas pour mes ateliers parce que si j'ai 30-40 participants, je n'ai pas envie de négocier avec 30-40 personnes parce que je n'ai pas le temps pour ça. Et en même temps, si tu veux, pour toutes les personnes qui aimeraient tellement être accessibles à tout le monde parce que c'est un autre grand piège, comme je veux être accessible à tout le monde, je mets un prix bas. Et parce que je mets un prix bas, j'attirerai pas des gens qui ça va être méfiant. Et puis, il y a des gens, peut-être, si je mets 50 euros, qui seraient prêts à mettre 70 ou 80 euros parce qu'ils trouvent que ce que je fais a de la qualité. Mais simplement, je me prive de ça parce que je mets un prix bas pour être accessible à tout le monde. Et je leur dis, mais mettez le prix juste et soyez prêts à discuter, à proposer des solutions pour ceux qui ont moins de moyens, si vous avez envie d'être accessible à ces gens-là aussi. Mais vous n'allez pas baisser toute votre gamme de prix parce que des gens ont peu de moyens, ça n'a pas de sens. Moi, le 60% de l'activité, c'est du gratuit. Ben, on fait du gratuit maintenant, je fais du gratuit à plein d'occasions. C'est plein d'interventions, de conférences, de trucs, c'est gratuit. Mais je peux le faire parce que je sais bien monnayer d'autres endroits où ce n'est pas gratuit, si tu veux. Donc, je peux être accessible gratuitement à beaucoup de personnes et payant à d'autres personnes aussi. Alors, une fois, c'est peut-être un peu particulier, mais quand on a des séances, c'est vraiment important d'être à l'aise avec son prix. Quand on parle de son prix, on doit pouvoir parler en étant bien stable dans ses jambes, sans être en train de balancer. On pourra regarder son client dans les yeux et pas regarder vite ailleurs ou regarder en bas dès qu'on dit son prix. Ça, ce sont des indicateurs qui montrent le prix. Je suis au bon prix ou pas. Si je commence à transpirer avant de dire mon prix, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai encore à aller bosser. Ou si je ne parle pas d'argent comme mon épouse au début, qu'elle était indépendante, elle attendait que le client sur le pas de la porte dise « Au fait, je vous dois combien ?» Tu vois, tellement elle était complètement figée avec ça. Ce n'est pas mon signe non plus. Donc, soyons dans l'ouverture aussi, puis que les choses soient claires dès le début. C'est pas un client doit savoir quel prix il va payer avant d'arriver. Que je vois des fois des personnes qui disent « Le client découvre sur place combien il paye. » Non, ce n'est pas OK. Il doit avoir la transparence, quand vous êtes tranquille. Le client sait combien il paye. C'est comment le paiement se passe et comme ça, c'est une question qui en est plus une, en quelque sorte.
Merci, c'était hyper complet, super intéressant. Je me vois aussi parfois à mettre un prix qui, pour moi, est haut et qui va me chambouler un petit peu. À la fois, je sais la valeur de ce que je vais vendre, mais parfois, ça vient vraiment me travailler et j'ai besoin de temps presque pour être OK avec ça. En fait, il y a comme un espèce de temps d'intégration. Et après, quand je vois que les gens sont en fait complètement OK pour payer ce prix-là, je suis presque surpris. Je fais « Ah oui, OK, en fait, c'est possible. » C'est comme si, hop, j'avais passé un petit palier. Qu'est-ce que tu dirais de ce temps, un peu d'intégration? Qu'est-ce qu'il y aurait à bosser quand on a un peu les jambes qui tremblotent pour annoncer son prix? Comment est-ce qu'on peut travailler ça?
Alors, oui, mais je pense que j'aime bien ce que tu dis parce que tu sais, je crois qu'à tout niveau, il y a chaque fois de nouveaux paliers, ce nouveau palier… C'est sortir de sa zone de connu, sortir de sa zone de référence. Et automatiquement, ça génère un peu de stress parce que c'est du nouveau, quoi. Et le nouveau, par définition, la plupart du temps, génère du stress pour la plupart des êtres humains. Donc, c'est important de l'accueillir. Toi, c'est comme si on devait apprivoiser ce nouveau prix, s'y habituer un petit peu. Un de mes amis, d'ailleurs, disait souvent, mais il disait sans rigoler, hein, il parlait souvent avec les commerciaux, il disait « Mettez-vous devant un miroir et dites votre prix, mais vous allez dire 10 fois le prix que vous demandez, vous allez dire 10 fois plus haut, tu vois, pas 10 fois le prix, 10 fois plus haut, je demande 120, je dis voilà, c'est 1200 avec moi. Enfin, vous allez tellement vous habituer à dire un chiffre tellement au-dessus que quand vous direz 120, ça vous paraît complètement ridicule, tellement ça paraît bas. Donc, C'est important de juste s'autoriser, pourquoi pas, à jouer plusieurs fois la scène, de dire, voilà, mon prix, c'est comme ça, vraiment que quelque chose qui devient facile. Toi, c'est comme si j'avais un pitch commercial. Plus je le dis souvent, même dans le vide, plus ça va venir souvent que si je le dis qu'une fois qu'on me demande, puis c'est pas souvent, puis je suis paralysé, ça va pas être fluide, en fait. Et je pense que c'est important, dans ces moments-là, vraiment de s'habituer à en parler et de le travailler. Je suis plus sûr que j'ai répondu à ta question. Il me semble que j'ai manqué un bout, mais je ne sais plus.
Oui, c'était ça, c'était comment travailler justement cette sortie de zone connue quand on se sent un petit peu fébrile pour annoncer son prix. Est-ce que tu avais des conseils par rapport à ça? Et du coup, voilà, s'entraîner en fait, ça c'est quelque chose que tu recommanderais.
Oui, s'entraîner, se préparer. Et puis, déjà, vraiment, pour les personnes, quand elles débutent et qu'elles ont un prix qui est peut-être un peu plus bas, c'est important de nommer prix de lancement. Prix de lancement, tel et tel montant, le prix normal, tel et tel montant. Tu vois? Tu vas peut-être dire, OK, pendant 3 mois, c'est ce prix-là, mes 10 premiers clients, c'est ce prix-là, mais j'annonce tout de suite le prix normal. Je suis tout de suite dans la transparence. Les gens ne devraient pas être surpris qu'ils aient le prix normal, bah, c'est déjà affiché. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore de le faire parfois, sur un nouveau produit, tout ça, OK. Prix de lancement tant, le prix normal, c'est tant, tu vois. Et les choses sont très claires pour tout le monde comme ça. Mais simplement, tu vois, on est déjà en train de préparer le terrain suivant à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas s'emprisonner dans un prix et d'y croire qu'on ne peut plus en sortir, ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs.
Ok, super bon tip aussi, je le garderai celui à le prix de lancement. Dans le parcours entrepreneurial, il y en a un que je connais bien qui me crée de l'anxiété assez souvent. C'est cette espèce d'incertitude en fait par rapport peut-être à l'année qui va arriver, puisque on est notre propre patron, c'est à nous de voilà d'aller chercher nos clients. Comment est-ce que on peut faire pour avoir plus de certitude, entre guillemets, moins d'anxiété liée au fait que ben ça peut être comme ça en fait, ça peut être en vague.
La première chose, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, de cesser déjà de vouloir que tout soit régulier. Parce que, tu vois, je veux dire, la vie, c'est comme l'inspire et l'expire, quoi. Hein. C'est pas juste comme ça, non, ça monte, puis ça redescend, puis ça monte, puis ça redescend. Et puis il y a des saisons, et puis les saisons, ça bouge, tu vois. Mais l'être humain, avec son contrôle et son mental, il aimerait que ça soit linéaire comme ça. Tu vois, c'est comme si l'hôtelier qui est en station touristique, il voulait avoir tous les mois le même chiffre d'affaires. C'est débile, ça n'a aucun sens. Ben oui, en été, il y a peut-être moins de monde parce que les gens, ils sont loin et puis ils viennent moins prendre des séances chez moi. Moi, je ne fais pas d'atelier, voilà. Donc, il y a des périodes qui sont plus ou moins actives ou pas. Donc déjà, la première chose, c'est d'accepter que les vagues, c'est la vie. La deuxième chose, c'est d'accepter, d'accueillir le fait que la vie est faite d'incertitudes. Toi et moi, sommes-nous à 100% certains d'être toujours en bonne santé, en vie dans 1 année, 3 ans, 5 ans? La réponse, c'est non, on n'en sait rien. Donc, la vie est faite d'incertitudes puisque... Et pour ça, 2020 était une merveilleuse expérience, tu vois, de croire que moi le premier, j'avais un agenda bien garni, je savais à peu près où j'allais les 6-8 premiers mois de l'année, c'est pas du tout passé comme ça. Et là, c'était un vrai, tu vois, un choc, moi je l'ai très bien vécu, mais globalement, de se dire, eh ben oui, les choses peuvent se passer complètement autrement que ce qu'on a imaginé, et c'est même pas parce que j'ai un problème de santé, c'est même pas parce qu'il m'arrivait quelque chose, c'est pour des circonstances extérieures. Donc, simplement, je veux dire par là, c'est que il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas dans notre vie, il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas dans notre vie, et heureusement, parce que le contrôle, c'est de la peur en action. De toute façon, on veut tellement contrôler de choses plutôt que vivre sa vie, tu vois. On veut contrôler la vie plutôt que la vivre. La vie, ça ne se contrôle pas, par définition. Ça se vit. Mais simplement, nous, les êtres humains, avons tendance à vouloir mettre du contrôle, et le contrôle, c'est 100% du temps, c'est de la peur. Il y a des peurs justifiées, mais la grande majorité du temps, les peurs ne sont pas justifiées. Donc, c'est important déjà de voir ça. Donc, si tu veux, moi, ce que j'amène vraiment avec mes clients, j'amène vraiment à se connecter à plus grand que soi. Alors, je sais, ça peut être très spirituel, ça peut paraître bisounours, mais moi, c'est beaucoup ce que j'appelle la confiance en la vie. La confiance en plus grand que nous, je crois fondamentalement qu'il y a une intelligence supérieure à la nôtre. Je n'y mets pas de religion, mais on peut y mettre une religion. Moi, je donne vraiment dans l'ouverture, ça m'est complètement égal, mais personnellement, je ne mets pas de religion. Qui fait qu'elle m'a fait rencontrer des gens incroyables, des circonstances absolument improbables et incroyables au moment où c'était bon pour moi, à l'image de Peter Koenig, par exemple, et de plein d'autres personnes, tu vois, qui fait que dans cette confiance en la vie, il y a vraiment cette idée, mais c'est cellulaire, hein, c'est vraiment quelque chose de... Il y a vraiment cette idée de quoi qu'il m'arrive, soit je trouvais les ressources en moi, où je trouverai les ressources à l'extérieur, même dans des choses que je n'ai pas prévues, que je n'arrive pas à prévoir, il y aura des solutions qui se présenteront à moi. Donc, Ça aide à avoir plus de sérénité parce que ça me permet de me focaliser sur le moment présent plutôt que vouloir prévoir tout ce qui pourrait arriver un jour de ma vie qu'on pourra de toute façon pas tout prévoir. Parce que la plus grande source d'anxiété que je vois chez beaucoup de personnes et chez beaucoup de femmes, c'est la croyance qui est « je ne peux compter que sur moi, ça ne peut venir que de moi ». Si j'ai cette croyance-là et qui n'est jamais par hasard, il y a forcément un historique qui nous fait croire ça, mais il est urgent d'en changer parce que cette croyance-là, elle est forcément anxiogène. Puis s'il m'arrive quoi que ce soit, tout est foutu, tu vois, dans mon esprit. Donc forcément que je suis anxieux parce que je veux contrôler, etc. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qu'on peut mettre commercialement en place pour essayer de lisser un peu les choses, mais encore une fois, partir d'un endroit apaisé et pas juste trouver des solutions pour avoir moins peur. Non, il faut s'occuper de nos peurs et après, on trouve des solutions qui sont meilleures.
J'adore. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ce que j'ai dit parce que je pense que aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup moins d'anxiété et je pense que c'était juste un récit narratif que j'avais dont j'ai envie de me débarrasser. Donc, je suis confiante pour l'avenir et je suis très heureuse de tous les projets qui sont à venir. D'ailleurs, dans cette thématique, tu as parlé à un moment donné de l'esprit de manque et de l'esprit d'abondance. Donc, l'esprit de manque, si j'en crois mon expérience, c'est celui qui nous est le plus familier parce que notre société, parce que notre cerveau, quand il est en autopilote, il va aller là-dedans. Est-ce que toi, tu as des pratiques assez concrètes ou des outils qui pourraient nous aider à cultiver l'esprit d'abondance? Et puis, d'ailleurs, si tu veux nous expliquer ce que c'est l'esprit d'abondance, je pense que ça peut être bien.
Je crois que le français a trouvé une expression merveilleuse pour expliquer ça, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Ça parle exactement de ça. C'est-à-dire que dans la même situation, un prend l'impression qu'il a une vie formidable, l'autre a l'impression qu'il a une vie de merde. Je caricature un peu. Et au fond, comme tu l'as dit avec raison, notre cerveau est fait pour nous maintenir en vie, en survie, en vie, et va chercher tous les risques potentiels pour essayer de nous rendre attentifs à ça. Que nous, on soit bien dans nos baskets, notre cerveau, il n'a rien à faire. Il s'en fout royalement qu'on soit joyeux, etc. Simplement, il a une sorte de trou de contrôle qui est comme sans arrêt voir s'il n'y a pas l'ennemi qui approche. Et en plus, on a des médias qui renforcent cela en montrant tout ce qui ne va pas dans le monde, tout ce qui ne va pas, les chiens écrasés, les machins, plutôt que montrer tout ce qui va bien. Donc simplement, premier truc très simple, coupons-nous de ces sources de malheur qui nous montrent une situation du monde qui n'est qu'une toute petite parcelle d'une réalité, mais qui ne nous montre pas une grande parcelle de notre réalité. Et il y a plein de gens qui font des choses formidables tous les jours dont on ne parle jamais et pourtant qui feraient du bien également à lire et entendre. Donc, coupons-nous de tout, je dirais, tout ce qui amène du négatif déjà, mais ça peut être parfois aussi de moins voir des personnes qui sont sans arrêt à avoir le pire, etc., qui sont négatifs. Et parfois, c'est des membres de la famille, des proches, de prendre un peu nos distances ou peut-être de juste dire, peut-être, écoute, moi, ça ne me fait pas du bien t'entendre parler de tout ce qui ne va pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir peut-être une discussion autre, je ne sais quoi, peut-être, si vraiment c'est des personnes avec qui on a régulièrement affaire. Donc, voilà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'on ne va pas échapper, puisque la très, très, très grosse majorité de nos pensées sont inconscientes, on ne va pas échapper à ce qui est des fonctionnements automatiques qui sont des pensées qui sont axées sur le manque. Par contre, chaque fois qu'on en a conscience, c'est stop. Tout de suite, à la seconde, comme je prendrais la télécommande, je mets stop à mon téléviseur, l'image s'arrête une fraction de seconde, c'est la même chose. Je peux stopper n'importe quelle pensée à n'importe quel moment, dès le moment où j'en suis conscient. Mais tu sais, ça m'arrive des fois où je me raconte un film, puis je me vois en train de régler mes comptes avec quelqu'un, mais je ne sais pas d'où ça vient, tu sais, et tout à coup je vois ça, stop, quoi, mais c'est quoi cette histoire de merde que je me raconte, encore une fois, tu vois, mais en mode automatique, quoi. Donc déjà, on peut couper ça et puis juste essayer de se brancher sur une autre énergie, de voir si quelque chose va bien. Et si tu veux, ce qui empêche beaucoup pour moi l'esprit d'abondance, c'est ce que j'appelle la dictature de la normalité. Qu'est-ce que ça signifie? C'est de penser que c'est normal d'avoir un endroit où vivre. C'est normal d'avoir 3 repas par jour. C'est normal d'être en santé. C'est normal d'avoir l'énergie. C'est normal d'avoir le Wi-Fi. C'est normal d'avoir un téléphone pour nous voir là, ou un ordinateur, etc., etc., et de l'eau courante, de l'eau potable, etc. Eh bien non, il y a sur Terre des milliards, je dis bien milliards, on ne parle pas de quelques millions, des milliards de personnes qui n'ont pas tout ça, qui n'ont pas 3 repas par jour, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas un logement, qui peuvent se protéger du chaud, du froid et tout ça. Donc ce n'est pas normal, c'est déjà énorme d'avoir tout ça. Et rien que cela, chaque jour, on pourrait être dans la gratitude. La gratitude, pour moi, c'est des merci. Je dis d'énormes noms merci sur une journée. Et si tu veux, l'esprit de gratitude, je prends un exemple. J'ai un atelier que je remplis, j'ai 20 personnes. La première personne qui s'est inscrite, c'est « Waouh, merci, merci, merci ». Je suis vraiment dans la gratitude de cette première personne. Pendant longtemps, j'ai des ateliers à 12 personnes, quand il y avait 10 inscrits, je voyais juste qu'il manquait 2 inscrits. Tu vois, je voyais juste ça, comme si un atelier rempli, c'était normal. Mais ça veut dire quoi? Si l'atelier rempli, c'est normal, c'est qu'il n'y a plus de quoi se réjouir de quoi que ce soit, c'est du n'importe quoi. Donc, tu vois, mon agenda, il est peut-être au tiers rempli. Ben, merci à chaque client qui me fait confiance. Je peux vraiment prendre un temps, lui dire merci, voilà, de moi à moi, comme si je lui parlais, tu vois, de mettre l'accent sur ce qui est déjà là. Parce que mes ateliers, ils ne seront peut-être pas remplis, mais ça commence toujours par un premier inscrit, puis toujours un deuxième. Ça ne commence jamais au 8e, ça ne commence jamais au 12e. Donc, merci pour ce premier, qu'est-ce qu'il est précieux et que personne ne me fait confiance. Donc, tu vois, on a plein de raisons de se dire merci parce que mes enfants sont en bonne santé, parce que ci, parce que ça. Et sortons de la normalité et vraiment apprenons-nous à cultiver, à avoir le beau et le bon et qui n'a pas besoin d'être de l'extraordinaire. Et c'est vraiment réapprendre à apprécier toutes ces petites choses de la vie et de faire du beau aussi à travers une belle assiette quand on mange, plutôt que se goinfrer vite fait en regardant la télévision, je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, de remettre du temps. Moi, j'ai la chance d'avoir des montagnes autour de chez moi, des belles montagnes autour de chez moi. Ça fait 35 ans que je vois les mêmes. Et chaque année qui passe, j'ai toujours plus d'émerveillement face à ces montagnes. C'est toujours les mêmes. Bon, il y a des couleurs différentes, évidemment, et tout ça, mais c'est comme si je m'émerveillais toujours plus parce que j'ai appris à m'émerveiller, à voir la beauté de ça et me connecter à la nature. Pour moi, c'est me connecter à plus grand que moi parce que quand je suis devant ces montagnes qui sont là depuis des, je sais pas, des millions d'années, je ne sais pas quoi, je me sens tellement petit que ça m'aide aussi à relativiser un petit peu mes problèmes et de voir que je suis un grain de poussière de passage milieu.
Merci beaucoup, c'était très beau et c'est vrai qu'on a tendance à oublier à quel point on a de la chance et à quel point on est privilégié aussi. Donc, ouais, merci pour ce rappel.
Et peut-être juste une chose à nous encore préciser, c'est que quand on met l'accent sur ce qui va bien, on va vibrer une autre énergie que si on met l'accent sur ce qui ne va pas. Parce que toi et moi et tous ceux qui nous écoutent, si quelqu'un est toujours négatif, on n'a pas envie de passer du temps avec lui. D'accord ? À un moment donné, ça nous use, ça nous fatigue, quoi. Donc, vibratoirement, cette personne-là n'est pas attirante. Quelqu'un qui est joyeux, qui est bien dans ses baskets, qui a le sourire, globalement, va être beaucoup plus attirant. Donc, tu vois, au-delà de « c'est déjà pour nous que ça fait du bien », mais plus on sera dans cette énergie-là, plus magnétiquement les clients auront potentiel, auront envie de venir vers nous parce qu'on a une vibration qui est très différente. Et c'est aussi important pour cela, mais au départ, c'est pour moi que je le fais. Mais je sais aussi que ça fait toute la différence dans les périodes où j'attire beaucoup de monde avec facilité, c'est des périodes où je suis dans la joie. Moi, la joie, c'est mon baromètre. Et dans les périodes où j'attire moins de personnes, c'est pas je suis dans le stress, j'ai des to-do list, des machins, je me mets la pression et ma vibration, elle baisse automatiquement et ça se manifeste dans l'univers, parce que pour moi, nous sommes tous interconnectés en permanence.
Et cet outil de la gratitude, si simple, gratuit, accessible à tout moment, à tous, donc à utiliser au plus possible.
Absolument.
Très régulièrement, j'ai de grandes conversations avec des amis à moi qui sont engagés dans l'environnement et on a des vues qui diffèrent énormément par rapport à l'argent. Et la phrase que j'entends souvent, c'est « Ah, l'argent, tout ça, tout est détruit à cause de l'argent ». Et donc, moi, parfois, quand j'ai des ambitions avec l'argent, enfin voilà, on se met dans des conversations comme ça. Est-ce que l'argent peut aussi contribuer à meilleure vision du monde? Dans quelle mesure est-ce que l'argent n'est pas forcément mal? Et là-dedans aussi, c'est... Ouais, enfin, toute cette question autour de l'environnement et de l'argent, tu vois ce que je veux dire?
Absolument, je vois très bien, tu sais, je connais bien tout ça.
D'accord.
Alors, là, pendant que tu posais la question, j'ai sorti de l'argent. Là, c'est du Suisse, c'est une couleur un peu différente. On a affaire à des bouts de papier. C'est important de se souvenir qu'on a affaire à des bouts de papier. Mm-hmm. Alors, quand j'entends « l'argent pourrit le monde », les problèmes de la société, c'est à cause de l'argent. On est en train de dire les bouts de papier et les chiffres sur un ordinateur, puisque l'argent virtuel sont des chiffres sur ordinateur, pourrissent le monde. C'est déjà un peu bizarre de trouver que des bouts de papier et des chiffres sur ordinateur pourrissent le monde. c'est comme bizarre parce qu'il y a plein de chiffres sur l'ordinateur, qu'ils soient de l'argent ou pas de l'argent. Donc, si tu veux, il y a vraiment une méconnaissance de beaucoup de monde, c'est de donner un pouvoir à l'argent que l'argent n'a absolument pas. Comment est-ce que des bouts de papier peuvent pourrir le monde? Avant, l'argent, ça existait, c'est des coquillages. Tu vois, c'est comme on disait, ah, si le monde va mal, c'est à cause des coquillages. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on oublie une chose, c'est que l'argent, sans l'être humain, il ne fait rien. Je n'ai jamais vu quelqu'un se faire attaquer par une liasse de billets d'argent. Ça n'existe pas. Il ne nous attaque pas, l'argent. Il ne va pas nous agresser. Donc, à un moment donné, derrière l'argent, il y a toujours un être humain qui va le mettre en mouvement, qui va le garder pour lui, enfin, qui va avoir des actions avec l'argent. Et si je prends un exemple, si malheureusement, comme ça arrive trop souvent, quand il y a un divorce, il y a des parents qui s'entre-déchirent pour la garde des enfants, je n'ai encore jamais vu personne dire « c'est à cause des enfants qui s'engueulent, c'est la faute des enfants, c'est mal les enfants ». Tu vois ? Quand c'est l'argent au milieu, ce serait la faute de l'argent, mais quand c'est les enfants au milieu, ce n'est pas les enfants. Ça montre bien que ça ne tient pas la route. Donc, nous, êtres humains, faisons circuler de l'argent plus ou moins, de manière plus ou moins fluide, avec la conscience qui est la nôtre, avec la confiance ou de la peur, ce qui fait que la manière dont on fait circuler n'est pas la même chose. Et si je fais circuler de l'argent de la peur, comme je l'ai fait pendant très longtemps, j'en suis l'unique responsable. C'est l'argent n'y est pour rien. Si aujourd'hui, je peux faire circuler de l'argent avec beaucoup plus de confiance qu'à l'époque, l'argent n'y est encore pour rien. C'est que c'est l'être que je suis est différent de l'être que j'étais à une époque. Donc, je dis, l'argent est un bulletin de vote. Un extraordinaire bulletin de vote. Il vote pour la société que nous voulons demain. Et effectivement, cet argent-là, je peux choisir d'aller acheter des produits, compter sur mon produit de manière éco-responsable, de manière éthique, par des entreprises qui ont des valeurs importantes, plutôt que d'aller dans des entreprises qui ont des valeurs qui ne sont pas les miennes. Je peux faire des choix. Et chaque fois que je choisis une entreprise ou un petit commerce plutôt qu'un grande surface, je donne comme mon bulletin de vote, quelque part, je vous encourage à continuer puisque je viens utiliser mon argent, faire circuler mon argent vers vous. Alors que là, mon argent ne circule pas vers vous parce que je n'aime pas ce que vous faites, selon ma perception, et je n'ai pas envie que ça circule. Et si on a la chance d'avoir assez d'argent, on peut participer à des financements participatifs, crowdfunding, qui fait qu'on peut encourager des projets à exister parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens et qu'il y a une nouvelle ferme qui existe, qui va effectivement produire des légumes selon d'autres manières de faire. Il y a une nouvelle école peut-être qui va fonctionner également. Il y a 10 000 projets fantastiques qui existent et qui peuvent exister grâce à notre argent. Donc l'argent est un formidable, pour moi, potentiel accélérateur du changement de société pour autant qu'on y mette de la conscience et pour autant qu'on s'autorise à en gagner, à en recevoir pour le faire circuler. Parce que le problème, c'est que les personnes dont tu parles, et il ne s'agit pas de juger ce qu'ils font parce qu'ils ont plein de belles intentions, je peux vraiment les voir, mais souvent rejettent l'argent et n'ont pas beaucoup d'argent à faire circuler. Il y en a des personnes tout en haut là qui n'ont pas de problème à attirer beaucoup d'argent à elles et qui le font circuler à leur manière. Mais si un petit peu du paquet qu'elles avaient, on s'autorisait à l'avoir et nous le faire circuler à notre manière, ça changerait beaucoup de choses déjà. Coluche disait, ce qu'il disait, c'est qu'à l'époque, c'est quand même dingue que on pense qu'il suffirait qu'on n'achète pas pour que ça n'existe plus. Il avait tellement raison. Donc, c'est beaucoup de questions de conscience, tu vois aussi, derrière tout ça.
Complètement. J'adore cette réponse. Merci beaucoup. Christian, il y a des femmes qui t'écoutent, des hommes aussi qui ont envie de s'empouvoirer davantage de leur argent, qui sont peut-être entrepreneurs. Est-ce que tu as des derniers conseils à leur donner avant qu'on finisse cette interview?
Alors, un conseil assez général, c'est-à-dire que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. L'argent n'a pas été créé pour nous empêcher d'offrir le meilleur de nous. On a déjà parlé tout à l'heure. Donc, si vous voyez que vous ne vous autorisez pas à aller vers un élan de vie, vers un mouvement de vie dans lequel vous sentez appelé pour des questions d'argent, occupez-vous de ça, quoi. Occupez-vous de ça. C'est tellement du gâchis de ne pas offrir ça que, quelque part, c'est, je dis toujours, ce que nous n'offrons pas au monde, le monde entier est orphelin de ce que nous n'offrons pas au monde. C'est pas juste, quoi. Et vraiment, donc, aujourd'hui, parce que nous avons donné tellement de pouvoir à l'argent, que l'argent prend beaucoup trop de place dans notre société. C'est un de mes jobs, c'est de remettre l'argent à sa juste place, juste pour quoi il a été créé, m'arrêter de croire que l'argent, c'est la sécurité, la liberté, le bonheur, ou source de conflit, ou l'injustice, je ne sais pas quoi. L'argent, c'est rien de tout ça. C'est juste une invention qui est censée faciliter les transactions et puis être un repère commun pour donner de la valeur à un certain nombre de choses. À une séance de thérapie, on dit ça vaut combien votre séance et on va donner une valeur argent. C'est l'utilité de l'argent, c'est aussi simple que ça, quoi. Comme je disais tout à l'heure, on n'attend pas, je crois que c'est à toi que je disais, j'ai eu une autre interview tout à l'heure, je suis plus sûr, mais on n'attend pas d'une machine à café qu'elle fasse un jus d'orange. Pourquoi est-ce qu'on attendrait de l'argent qu'il fasse quelque chose pour lequel il n'a pas été créé? Et c'est vraiment ça le problème. Donc, remettre l'argent à sa juste place, c'est comment faire en sorte qu'ils soient au service de nos projets plutôt qu'ils mènent nos projets parce qu'on est en train de courir après.
J'adore, merci beaucoup, je suis surinspirée, j'ai envie d'aller courir, je sais pas, tellement je sens que ça m'a apporté. Merci infiniment Christian, je mettrai pour celles ou ceux qui veulent en savoir plus sur tes livres, tes conférences, mais aussi tes stages, tes programmes, je mettrai tout ça dans la fenêtre de l'épisode. Et puis je te remercie encore infiniment pour ton temps, ça a été très précieux pour moi de t'interviewer.
Ben, c'est un grand plaisir, merci de l'invitation.
Merci infiniment d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié l'interview. Personnellement, ça m'a vraiment donné l'envie de croire en moi, de croire en mes projets, de croire en cette force plus grande que moi qui m'aide. Et je prends conscience aussi que j'ai vraiment fait du chemin par rapport à mon rapport à l'argent grâce aux livres que j'ai lus de Christian Junot, au travail personnel que j'ai enclenché. Je le vois aussi parce que maintenant, j'ai l'impression que quand j'ai moins de rentrées d'argent, quand il y a moins d'argent sur mon compte ou quand je dois faire des grosses dépenses, je suis moins en panique parce que je sais que en fait, c'est juste une transition et que l'argent va revenir. Et je sais que je dois parfois investir pour que ça revienne et que c'est pas linéaire. Et ça, je sens que au niveau de mon système nerveux ou au niveau de mon stress, c'est beaucoup plus apaisé et je suis beaucoup plus ancrée, j'ai beaucoup plus confiance. De votre côté, Christian et moi, on adorerait savoir ce qui vous a le plus parlé dans l'épisode. N'hésitez pas à venir nous le partager sous la fenêtre Instagram en commentaire. Et puis, si le podcast te plaît, alors c'est toujours avec grande joie que je lis vos commentaires sur Apple Podcast. Si vous ne l'avez pas déjà fait, alors n'hésitez pas à vous rendre sur cette application Apple Podcast pour me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis si personne ne te l'a dit aujourd'hui ma belle, alors laisse-moi te rappeler que tu es une véritable queen de ta life et que tout est possible. Continue à croire en toi, en tes projets. You can do anything. Je te souhaite une belle journée, belle soirée, où que tu sois, et je te dis à la semaine prochaine.